Seigneur, dispose nos cœurs à entendre ta parole. Je demande vraiment ton secours pour vraiment dire ce que toi tu veux vraiment dire. Aide-nous à faire abstraction de tout ce qui pourrait passer par la tête et aide-nous vraiment à être centrés vraiment sur toi et à entendre ce que tu veux nous dire. Nous attendons à toi maintenant. Merci Père. Ça m'arrive de le rappeler, mais quand on entend une prédication, quelqu'un qui prêche, on a une tendance peut-être à trop voir la personne qui prêche, n'est-ce pas? Bon, c'est inévitable. Mais Dieu veut nous parler. Et donc, soyons vraiment, entre guillemets, en mode écoute de ce que Dieu veut nous dire. Et tout l'effort des prédicateurs ici à l'église ce soir est de prêcher la parole de Dieu, donc la Bible, et non de se prêcher soi-même. C'est vraiment l'effort qu'on fait, c'est de vraiment venir avec ce que Dieu veut vraiment dire plutôt que ce qu'on a envie de dire. Ce qui est un effort pas simple, mais qui demande beaucoup de discipline. Et voilà, soyons vraiment en mode écoute ensemble. Et tout autant, ce que je vais dire, vous en avez besoin, moi aussi j'en ai autant besoin que vous. Alors, une bonne question. Si Dieu est si bon, pourquoi les chrétiens sont-ils si mauvais? Question un peu provoque. Si Dieu est bon, pourquoi les chrétiens sont-ils si mauvais? Un article sur le site Foi en question répond à cette question en mentionnant au début que Ravi Zacharias est perplexe. Ravi Zacharias est un homme remarquable. C'est un philosophe indien qui a défendu la crédibilité intellectuelle de la foi chrétienne dans les universités les plus connues telles que Oxford. Et pour ceux qui lisent beaucoup de livres, vous êtes obligés de connaître cet homme. Comme penseur, il était habitué à répondre à des questions troublantes comme celle-ci. Comment peut-on réconcilier un monde rempli de mal avec un Dieu bon? Bonne question. Mais un jour, un homme hindou a posé cette question, qui ressemble un peu à la question de ce matin. Si la foi chrétienne est vraiment surnaturelle, pourquoi cela n'est-il pas plus visible dans la vie de beaucoup de chrétiens que je connais? Vous avez entendu la question? Si la foi chrétienne est vraiment surnaturelle, pourquoi cela n'est-il pas plus visible dans la vie de beaucoup de chrétiens que je connais? Et là, à cette question, Zacharias, perplexe. Peut-être que le malaise créé par cette question montre que l'épreuve la plus difficile à la foi chrétienne n'est pas théologique ou intellectuelle, mais pratique. Est-ce que c'est juste dans la tête ou les chrétiens vivent vraiment ce qu'ils disent? Vous avez certainement déjà entendu plusieurs rejeter la foi chrétienne à cause du passé. Avec la guerre terrible entre catholiques et protestants, les abus sexuels sur mineurs commis par les prêtres dans l'église catholique, les abus d'argent encore actuels dans certaines églises qui se disent évangéliques, où les pasteurs poussent à donner pour être bénis. Je veux entendre, je ne veux pas entendre de pièces. Il faut que des billets. Une théologie de prospérité est donnée. Tout cela brosse un tableau horrible et salit la réputation de toutes les églises. Alors que ce ne sont pas toutes les églises qui sont ainsi. On aimerait que les gens fassent comme quand ils vont dans une boulangerie. Hein. Ils voient comment c'est servi, il n'a pas mis les gants, c'est pas propre. Bon, je vais à l'autre boulangerie. On aimerait que les gens fassent la même chose avec l'église. Hein. Ils vont arriver, ah mais c'est bizarre, il y a des choses bizarres, je vais aller dans l'autre à côté. On va commencer ce qui passe. Mais ce n'est pas le cas. Quand les gens sont choqués par ce qu'ils ont vu, il faut mettre une croix, c'est fini. L'église est comme ça. Au-delà d'histoires et d'informations abusives rapportées par les médias, il y a aussi les comportements et la vie des chrétiens qui ne sont pas toujours exemplaires. Le père de famille qui va à l'église avec toute sa famille. personnes qui se disent je suis chrétien et non pratiquant. C'est un non-sens biblique. Car si nous sommes vraiment chrétiens, nous serons pratiquants. Alors, si Dieu est si bon, pourquoi les chrétiens sont-ils si mauvais? Que dit la Bible à ce sujet? Que dit Dieu? Alors, avec une telle question, vous comprenez que je ne vais pas répondre directement à cette question. Je ne vais pas répondre directement à la question, mais plutôt y répondre en donnant quatre vérités importantes à comprendre. Et en comprenant ces vérités, vous allez avoir les réponses. Dans ces quatre vérités, vous verrez que le problème ne vient pas de Dieu, puisque quand on entend la question, il y a un petit peu de ça. On se dit, alors Dieu, hein, c'est toi le problème. Mais non, vous verrez cela tout de suite. Avant de donner la première vérité, j'aimerais faire un sondage maintenant. Vous êtes prêts? Il faudra vous lever la main si vous dites oui ou non à la question suivante. C'est parti. À votre avis, Dieu est-il d'accord avec ceux qui rejettent la foi chrétienne à cause des mauvais comportements des chrétiens? Si oui, levez la main. Il n'y a personne qui lève la main. Sinon, levez la main. Bon, c'est facile puisque personne n'avait levé la main. Mais en même temps, il y en a qui ne jouent pas parce qu'il y en a qui sont restés comme ça tout le long. Tu vois? Oui? Non? Vas-y, Manu, continue. Je vous ai vu. On en parlera tout à l'heure. Je vais vous étonner. La question est oui et non. La réponse plutôt. Est oui et non. Oui, parce que Dieu attend des chrétiens, en fait, que leur comportement montre la réalité de leur foi. D'une certaine manière, oui. Cela nous amène à la première vérité importante à comprendre. Premièrement, les chrétiens devraient avoir un bon témoignage. Regardons quelques textes. Paul, un apôtre dont Dieu s'est servi pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est lui qui a presque écrit tout le Nouveau Testament, enfin, c'est énorme, il y a plein de lettres de lui. 1 Corinthiens 9, verset 27, regardez ce qu'il dit. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, donc une grosse discipline de lui-même, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même quoi? Disqualifié. Alors, à la question d'avant, il serait donc en train de dire, Manu, d'une certaine manière, oui. Vous voyez? Parce que ici, Paul reconnaît qu'il peut être rejeté si son comportement ne va pas dans le même sens ou contredit le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qu'il proclame. Il traite donc durement son corps pour vivre dans la sainteté, l'amour, se montrer quelqu'un qui, où l'évangile et la bonne nouvelle de Jésus-Christ le transforme, afin de ne pas salir ce message par sa vie. Jésus lui-même dit dans Matthieu chapitre 5, verset 16, donc Jésus lui-même, qui est Dieu lui-même, n'est-ce pas, lui-même dit ceci, « Votre lumière doit briller devant tous les hommes. » Pourquoi, les amis? Pour qu'ils voient le bien que vous faites. Aïe, aïe, aïe. Et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Oh. On aimerait que le texte soit moins clair, n'est-ce pas? Pour certains, peut-être. On descend de notre chaise. Le texte est très clair. Jésus veut que les chrétiens fassent le bien du bien à tous dans leur vie quotidienne, faire le bien à la maison, au travail, aux voisins, dans leur voisinage, partout. Bien plus, il veut que les chrétiens soient connus pour le bien qu'ils font. C'est comme si, moi-même, vous me voyez ici sur les strates, c'est comme si on mettait les chrétiens sur. Un peu, on les élève pour regarder un peu leur comportement, leur vie. Nous savons que les chrétiens doivent faire le bien pour plaire à Dieu. Ça, nous savons. Mais ce texte donne une autre raison. On l'a dit ensemble. Les chrétiens font le bien pour que ceux qui les voient soient attirés à Dieu et lui rendent gloire. Alors, faites pas comme cet homme qui est sur le travail, qui a eu un super bon témoignage. Jean chapitre 17, verset 21 à 23, je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Il insiste. Regardez la suite. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme toi. Et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un. Et qu'ainsi, le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Et là, le texte est encore très clair. Jésus prie pour l'unité des chrétiens, produite par l'attachement à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette unité s'exprime par un amour fraternel intense, qui est manifeste, vécu entre Jésus-Christ et son Père. Cette unité doit donc être profonde, vraie. Mais pourquoi Jésus veut-il une telle unité dans l'Église? Et vous l'avez entendu. Verset 21. Pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 23. Car si le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. C'est très fort. Pour Jésus, il est indispensable que les chrétiens soient unis par leur attachement commun à la bonne nouvelle de Jésus-Christ et qu'ils vivent un amour intense les uns envers les autres. Ça, c'est très clair. Vivre une telle unité est un puissant témoignage pour le monde. Cette unité prouve, écoutez bien, cette unité prouve que Jésus est bien l'envoyé de Dieu et donc que son message de salut est authentique. Elle témoigne de l'amour de Dieu. C'est cette responsabilité qui est donnée à l'Église. Il y a de quoi être pris. À la lumière de ce texte, il y a de quoi être pris. Est-ce que nous avons un bon témoignage auprès de nos enfants? Avons-nous un bon témoignage auprès de notre époux, épouse? Avons-nous un bon témoignage auprès de nos collègues de travail, voisinage, enfin partout? Est-ce que les gens peuvent dire, lui c'est quelqu'un de bien? Il y a quelque chose chez lui. Et je pense que c'est pas besoin de ce que je vais dire, vous le savez déjà, mais on entend des gens qui se disent chrétiens, mais où il y a clairement une vie qui n'est pas du tout en phase avec ce qu'ils disent à l'Église. Et donc de là, on entend des personnes qui sont avec des paroles grossières au travail. C'est normal. Ou on a des personnes qui sont à l'Église et qui aiment bien lui dire, t'as vu ce qu'elle a fait, elle, là, c'est abusé, etc., etc. Et en tant que croyant, on ne doit pas être de ces personnes, n'est-ce pas? Dieu est-il d'accord avec ceux qui rejettent la foi chrétienne à cause des mauvais comportements des chrétiens? L'autre réponse est non. Ça nous amène à notre deuxième vérité. Les chrétiens ne sont pas mieux que les autres. Les chrétiens ne sont pas mieux que les autres. Même s'ils doivent être des témoignages pour les autres, devant les non-croyants, ils ne sont pas mieux en soi. Ils ont reçu beaucoup de choses de la part de Dieu, mais ça ne veut pas dire que d'un coup ils sont parfaits. Un véritable chrétien, j'aime dire ça, est en chantier toute sa vie. Là, vous allez retenir cette image. Vous retenez ça, vous avez tout compris. Un chrétien, c'est ça. Il est en chantier. Vous imaginez, ça part dans tous les sens. Hein, comme quand ils détruisent un lieu pour ensuite construire une maison. Hein. Le chrétien est en chantier toute sa vie. Dieu a beaucoup de travail à faire dans nos vies et nous aussi. Quand des chrétiens placent leur foi en Jésus-Christ, ceux-ci ne deviennent pas parfaits. Une transformation intérieure radicale se manifeste. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Alors ce changement intérieur est spirituel. Le chrétien qui était dans le péché est maintenant pardonné et libéré. étaient sous la colère de Dieu, ils sont ennemis et maintenant son ami, son enfant. Le chrétien qui avait pour destination l'enfer ira maintenant au paradis, dans la présence même de Dieu. Le chrétien qui n'avait aucune relation avec Dieu à cause de ses péchés reçoit maintenant une relation intime avec Dieu et même le Saint-Esprit en lui. Le chrétien qui était plus enclin à vivre comme bon lui semble en rejetant Dieu a maintenant de plus en plus envie de lui plaire. Il a même reçu la capacité de vivre dans l'obéissance à Dieu. Donc il y a énormément de changements à l'intérieur. Alors au début, le chrétien vit donc ces changements intérieurs. Pour les uns, cela peut se voir tout de suite. Pour les autres, cela se voit progressivement. Par exemple, pour moi, pour ceux qui m'ont connu, ils ont bien souffert quand j'étais plus jeune. J'étais très insolent, donc désobéissant, irrespectueux envers ma mère jusqu'à mes 17 ans. Et, que ce soit envers ma mère ou c'est le professeur d'école, enfin tous ceux qui avaient une autorité, j'aimais pas. Mais quand j'ai dit oui à Dieu, forcément, vu comment j'étais avant, quand j'ai dit oui à Dieu, le changement était radical. Donc, moi qui étais insolent, Dieu a fait cette transformation qui fait que l'amour de Dieu m'a saisi et j'ai grandi en amour pour Dieu et pour les autres. Le pardon était manifeste, l'amour pour les autres, un respect des autorités. Voilà, ça c'était quelque chose qui était très clair, très visible. Donc de tels changements, d'autres personnes l'ont vécu. Mais pour d'autres qui sont très gentils à la base, même s'il y a un fort changement spirituel qui se produit à l'intérieur, on ne voit pas tout de suite de grands changements visibles, n'est-ce pas? Ceci dit, soulignons un élément essentiel. Les problèmes de caractère là, et les mauvaises habitudes ne changent pas du jour au lendemain. Dieu aurait pu nous transformer tout de suite, mais lui, il a choisi de le faire petit à petit en impliquant notre volonté et notre choix. Nous sommes pleinement acteurs dans ce processus. Même s'il y a un changement très fort qui se produit dans l'être intérieur du chrétien, c'est petit à petit qu'il grandira en sainteté, en pureté, en amour pour Dieu et pour les autres. Regardons d'autres textes dans la Bible. 1 Thessaloniciens 3, 12 à 13, Paul prie ainsi pour les chrétiens. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes à l'exemple de l'amour que nous vous portons. Qu'il affermisse ainsi vos cœurs pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu, notre Père, au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses anges. Voilà le texte. Paul prie ici pour que les chrétiens progressent en amour. Donc s'il dit ça, cela veut dire que les chrétiens n'aiment pas encore parfaitement. Paul prie aussi pour que les chrétiens soient saints et irréprochables devant Dieu. Cela veut dire que les chrétiens ne sont pas encore totalement saints. Si Paul prie cela, veut dire qu'il y a vraiment besoin aussi de l'action de Dieu. Voilà pourquoi c'est formulé en prière. Dieu doit agir dans le cœur des croyants. Mais il ne faut pas seulement l'action de Dieu. Paul poursuit dans le chapitre suivant. Frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous y invitons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Paul dit clairement ici à ses lecteurs de faire toujours plus de progrès dans une conduite qui plaît à Dieu. Vous voyez, ici, on voit clairement que Dieu attend de nous progression. Donc à la lumière de ces deux textes, non seulement nous avons besoin de l'œuvre de Dieu dans notre vie pour grandir en sainteté, et cela est indispensable, mais il faut aussi, et cela est très important, que nous mettions en action pour faire des progrès. Cela ne se fait pas tout seul. Alors, quand Dieu touche une vie, une personne, l'attire à lui, et que celui-ci demande pardon pour ses péchés, ses fautes, et place sa foi en Jésus-Christ, Dieu met un panneau en chantier. Donc, retenez bien cela, le chrétien est en chantier toute sa vie. Il n'est pas parfait. Donc, nous avons vu, les chrétiens devraient avoir un bon témoignage. chrétiens ne sont pas mieux que les autres. Les chrétiens peuvent malheureusement être, maintenant c'est notre troisième point, être des hypocrites. Aïe, aïe, aïe. Quand Jésus était sur terre, les responsables religieux ont passé un sale quart d'heure avec lui. Enfin, plusieurs. Voici ce que Jésus leur a dit dans Matthieu chapitre 23. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous êtes comme ces tombeaux crépis de blanc qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur il y a cossement de cadavres de pourriture. Vous de même, à l'extérieur, vous avez l'air de juste aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, il y a hypocrisie et désobéissance à Dieu. Ce texte montre à quel point l'hypocrisie est grave aux yeux de Dieu. Devant l'hypocrisie, Jésus se met en colère, il appelle des malheurs sur les responsables religieux hypocrites. Dans d'autres textes, ça va même plus loin, il prononce contre eux des condamnations sévères et les condamne à l'enfer. Une personne qui vit dans l'hypocrisie, qui ne se repent jamais de son péché et ne change pas, ira en enfer, loin de la face de Dieu. Et ça, c'est terrible. Mais ça peut nous montrer à quel point Jésus déteste l'hypocrisie. Ce qui m'attriste le plus, c'est que cela est encore bien présent de nos jours chez des responsables d'église. Certainement, vous avez des exemples. Pasteur, ancien, conseil, responsable dans un ministère, prédicateur, etc. Des gens qui se montrent devant les autres bien, mais au fond, ils sont éloignés de Dieu, sans véritable amour pour lui et pour les autres. Ils vivent pleinement dans le péché, et leur foi n'est pas sincère. Et cela est grave. Donc, Dieu est contre cela. Petite question pour nous, croyants. Pourquoi pensez-vous que le Nouveau Testament soit rempli de récits mentionnant les pharisiens? Question pour un champion. Pour dénoncer le légalisme. Très souvent, quand on est face à ces textes, on se dit c'est les pharisiens, n'est-ce pas? Dieu y a placé plusieurs histoires avec des responsables religieux hypocrites, non pour que nous on se dise ben voilà, je suis bien moi. Non, c'est pour montrer à quel point nous pouvons avoir cette tendance en nous d'agir comme eux. Attention à l'hypocrisie. En fait, quand vous lisez le Nouveau Testament, c'est juste des signaux pour dire attention! Attention à l'hypocrisie, attention à l'hypocrisie. Pas ce pharisien, heureusement, je ne suis pas comme ça. Non, non, non. La Bible dit aussi que l'hypocrisie sera fortement présente dans les derniers temps. Vous saviez ça? Voici ce que Paul dit à Timothée, un jeune pasteur, de Timothée 3. Sache bien que dans les périodes finales, la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans piété, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Stop, stop, stop. Il y en a trop là. Ils aimeront plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion. Vous entendez? Mais, en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Donc la Bible est clairement contre l'hypocrisie. Là, on l'entend fortement. Et on entend que dans les derniers temps, en fait, c'est normal si vous voyez des églises où l'hypocrisie est bien présente et même croisse le texte. Au-delà de l'hypocrisie, des responsables religieux et des chrétiens. chrétiens, et il y en a aussi d'autres qui agissent contre Dieu, son Église. Ils sont ennemis de la foi. Ce sont les faux enseignants qui veulent les éloges, la gloire, l'argent, etc. Et donc, si vous voyez des églises comme cela, en fait, c'est normal. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des prédicateurs de mensonges. Toujours dans Timothée, donc 1 Timothée chapitre 4. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. La Bible dit. Donc, s'il y a des églises où il y a des prédicateurs qui sont clairement hypocrites, c'est prévu. Ça fait partie des signes des derniers temps. Et dans ces textes, vous entendez déjà le quatrième point. Quatrièmement, les chrétiens sont attaqués. Satan et ses démons. Et oui, celui qui attaque l'Église, qui fait tout pour tuer la réputation et le témoignage de chrétiens, qui travaille pour provoquer des tensions et des divisions, c'est bien Satan et ses démons. Vous voulez savoir ce que la Bible en dit? Voici un texte très connu. 1 Pierre 5. Pierre s'adresse aux chrétiens et dit: ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Quelque chose d'assez fort pour dire à quel point Satan attaque et travaille durement pour cela, pour faire tomber l'Église de Dieu. Je vais maintenant conclure. Si Dieu est si bon, pourquoi les chrétiens sont-ils si mauvais? Quelle vérité nous révèle ici que le problème ne vient pas de Dieu? Premièrement, les chrétiens devraient avoir un bon témoignage. Ils ne sont pas mieux que les autres. Ils peuvent être des hypocrites. Et quatrièmement, ils sont attaqués par l'ennemi. Si nous savons avoir rejeté l'enseignement biblique et Dieu lui-même à cause du mauvais témoignage des croyants, à la lumière de tout ce que je viens de dire, nous faisons fausse route. Il y a d'autres chrétiens et d'autres églises qui reflète la beauté d'un Dieu d'amour et de sainteté. Même si elles sont imparfaites, ces églises. Et au-delà de cela, il y a Jésus-Christ, le parfait modèle. Il n'est pas hypocrite. Son enseignement et sa vie ne font qu'un. Alors, j'ai envie de dire, tout simplement, regardons à Jésus-Christ. Laissons-nous toucher par sa vie, sa mort et sa résurrection. Demandons-lui pardon pour nos fautes. Recevons son pardon et sa vie en nous. Nous en serons bouleversés. Et enfin, suivons avec amour son enseignement. Nous le verrons agir puissamment en nous. Nous ne le regretterons jamais. En tout cas, tous ceux qui ont fait appel à Dieu et qui ont une relation avec Dieu ne le regrettent jamais. Nous croyons, si nous vivons dans l'hypocrisie, cela est très grave aux yeux de Dieu, et vous l'avez entendu. Alors, si vous savez avoir un comportement hypocrite, vous savez que dans votre vie de famille, dans la vie de couple, vous ne faites pas ce que vous devriez faire. Auprès de vos enfants, vous ne faites pas ce que vous devriez faire. Dans votre famille, vous laissez l'amertume grandir, etc. Si vous voyez que vous n'avez pas un bon témoignage auprès de votre collègue de travail, vous rentrez dans les ragots, vous rentrez dans toutes sortes d'insultes ou de plaisanteries sous la ceinture. Tout simplement, avec cela, si vous savez vous détourner petit à petit et d'être vraiment ce chrétien dans l'hypocrisie, alors revenez à Dieu et demandez-lui pardon. Et changeons de vie et vivons pour lui plaire en obéissant à sa parole. Faisons le bien dans toutes nos relations afin que tous ceux qui cela se voit et attire plusieurs à toi. Aide-nous à grandir encore et encore en sainteté et en amour pour toi et pour les autres. Protège-nous de toute hypocrisie et de toute attaque de Satan. Seigneur, tu connais les personnes ici qui ont peut-être rejeté la foi chrétienne, qui sont venues ce matin et qui ont tout rejeté parce qu'ils se sont dit, de toute façon, les chrétiens, ce ne sont que des hypocrites.